Qui est cet homme? Est-ce un Baghdadi? Je ne l'ai jamais vu ici. Serait-ce un prétendant pour la princesse?
Oyez, oyez, habitants de Bagdad, Aladdin arrive, vous n'êtes pas de taille. Bandez les yeux à vos phares, elles vont tomber sous le char. Prétendant, si tu l'es, je te conseille de baisser les armes. Oyez, oyez, habitants de Bagdad, Aladdin arrive, vous n'êtes pas de taille. Bandez les yeux à vos femmes, elles vont tomber sous le char. Prétendant, si tu l'es, je te conseille de baisser les armes. Oh, il vient de loin, ne cherchez pas à savoir d'où. Son cœur est libre et il veut chalier à la douce. Il est riche, beau gosse et j'en passe. Impossible de faire semblant de rêver quand la légende passe. On raconte ailleurs, tout le monde le veut. Tout le contraire du vizir et son neveu. L'homme aux 400 000 feux mais accompagné de cracheurs de feu. Il est même dit qu'il a un ami génie qui exauce des vœux. Jean-Michel il vend des jars, Aladdin il vend du rêve. Posé sur son dromadaire, poussez-vous, il tient les rênes. Bien trop connu pour qu'on se demande qui c'est. Chouf, ses diamants, son or, ses cheveux lissés. Les prétendants tous nazes, limite insultants. Inclinez-vous, allez tous prévenir le sultan. Prince Chalia, voilà Aladdin le prince. Avis au Baghdadi, désormais c'est lui qui rince. Oh.
En fait, moi je suis ravi hein, d'être là pour danser et tout, je trouve ça super. Mais je voulais savoir, tu crois qu'il y a moyen de faire un petit rap pour les gens et tout aussi?
T'es pas rappeur?
Si, en fait, je suis en train de devenir un peu rappeur, un peu à la White M, tu vois. Ce que je veux dire.
Quand je dis Aladdin, tout le monde dit le prince. Tout le monde dit le prince. Tout le monde dit le prince. Quand je dis Aladdin, tout le monde dit le prince. Tout le monde dit le prince. Tout le monde dit le prince.
Ça fait A-L-A-D-I-N. Le vizir, tu sens qu'il a une petite haine. Quand j'arrive à Bagdad, y'a plus de problème.
Pour ceux qui m'aiment, Mandara, bah, what's my name?
Poussez-vous vers la place, on plus riche des princes à la terre.
Bon bah c'est bon, je l'ai dit là.
Fuck le vizir.
Tu arrêtes.
Bienvenue sur Graines d'IUT, animée par des étudiants en BUT Génie Biologique, Parcours Agronomie de Digne-les-Bains. Notre émission est là pour vous divertir avec bonne humeur et spontanéité. Graines d'IUT, l'émission qui fait germer les idées.
Bonsoir, alors nous sommes aujourd'hui quatre étudiants de GB à Digne en première année du parcours agronomie. Donc nous sommes en présence de Mickaël.
Bonsoir.
Ombeline.
Bonsoir.
Et Maëlle.
Bonsoir.
Ils ont choisi de nous présenter ce soir les épices et les herbes qu'on peut ajouter dans nos plats. Parce qu'en tant qu'étudiants, des fois on ne sait pas trop quoi cuisiner et on va surtout se tourner vers les pâtes. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelles épices et herbes vous avez choisi de nous présenter ce soir?
Bah moi, j'ai choisi de vous présenter les herbes de Provence, parce que bon, on est en Provence et puis ça agrémente un peu tous les plats. Et puis en épices, j'ai pris la cannelle parce que c'est une épice que j'aime énormément et que j'utilise beaucoup, surtout dans les desserts.
Moi, j'ai décidé de vous présenter le basilic, qui est bientôt de saison et dont on accompagne pas mal de nos plats. Et le laurier sauce, qui est moins connu, mais pourtant très bon à utiliser.
Quant à moi, j'ai décidé que ce soir, j'allais vous présenter le safran et aussi vous parler du thym qu'on utilise très souvent dans la cuisine provençale et notamment dans des recettes très locales et très répandues.
Donc, vous m'avez dit que vous allez commencer par nous présenter réellement les origines des épices que vous avez choisies, puis les différents modes de production qu'on peut avoir sur celles-ci, et pour finir, la façon dont vous les utilisez et dont nous pourrions les utiliser. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler des origines de ces épices, s'il vous plaît ?
Alors, en ce qui concerne les herbes de Provence, c'est assez facile à répondre puisque, comme le nom l'indique, elles viennent de Provence. Donc déjà, il faut savoir que les herbes de Provence, c'est un mélange d'origan, de thym, de romarin et de sarriette. Donc elles viennent toutes de Provence. Et pour la cannelle, elle, c'est un arbre plutôt connu d'origine exotique et elle est originaire du Sri Lanka. Et c'est l'écorce d'un arbre qu'on appelle le cannelier.
D'accord.
Pour le basilic, alors ça va peut-être vous étonner, mais elle n'est pas originaire de France, ni du bassin méditerranéen. Elle est originaire d'Inde, et là-bas, elle est reconnue comme étant une plante sacrée. Je ne vous donnerai pas le nom parce que je ne sais pas le prononcer. Grâce à la route des épices, elle a été répandue un peu dans tout le monde, en particulier en Asie, en Afrique, et aujourd'hui dans le bassin méditerranéen. Pour ce qui est du laurier de sauce, lui, il est originaire du bassin méditerranéen et en particulier de notre région.
Concernant le safran, c'est une épice avec une origine un peu particulière parce que c'est pas quelque chose d'origine naturelle. C'est un hybride entre deux crocus qui étaient très proches dans la famille, qui étaient produits en Italie, comme beaucoup de variétés horticoles, les pois de senteur notamment, tout ça, tout ça. Et le thym, sur le coup, c'est une herbe de Provence qui existe depuis toujours et qui est utilisée aujourd'hui, mais a été déjà utilisée au Moyen-Âge ou à des époques très anciennes. C'était une des premières herbes aromatiques qu'on pouvait trouver dans le bassin méditerranéen.
Et est-ce que vous pourriez nous expliquer comment on pourrait reconnaître ces plantes dans nos jardins ou en quelle saison elles poussent vraiment ?
Alors, pour le cannelier, ça va être déjà surprenant que vous en ayez dans le jardin, puisque c'est un arbre qui, je vais vous l'expliquer après, pourrait pousser dans nos régions en pot ou en terre autour de la Méditerranée, mais qu'on ne trouve quasiment pas. Il est extrêmement compliqué de trouver des graines ou des pieds. Donc, le cannelier, vous risquez pas d'en trouver. Pour ce qui est des herbes de Provence, je laisserai le thym à Michael, mais pour ce qui est le romarin... on en trouve énormément dans la garrigue, il est facile à reconnaître. Quand il est grand, il peut former un petit arbuste avec des espèces de feuilles qui ressemblent à des aiguilles assez plates, coupées en deux, et les fleurs sont toutes petites, entre le violet clair, on va dire.
Pour ce qui est du basilic, on va le retrouver surtout dans des zones humides et assez chaudes. Il se ressemble à un peu petit qu'un buisson, et il a des longues feuilles qui sont très odorantes. Pour le laurier sauce, pareil, c'est des feuilles alors qu'elles sont très plates et à vert plutôt clair, assez désagréable au toucher et qui, elles, sont aussi très odorantes, et forment des petits arbustes, voire des arbres pour certains cas.
Concernant le thym, on peut le trouver très facilement dans la garrigue, dans les plateaux très ensoleillés et très rocailleux. C'est une plante qui est plutôt de petite taille, qui fait des buissons assez minuscules, environ de 20-30 cm de hauteur à peu près. Elles ont des branches très aérées entre elles, avec beaucoup d'espace, et leurs feuilles sont très fines, piquantes, et ça prend des teintes blanchâtres, bleutées. Et concernant les plantes de crocus safrinière, on n'en trouvera pas dans la nature, ça c'est sûr, mais si quelqu'un en fait pousser dans son jardin, dans des serres, ce sont des bulbes sous le sol et leurs feuilles sortantes, ça fait comme des longues aiguilles vertes qui peuvent s'étendre assez loin. Et s'il fleurit, alors dans ce cas, il y aura des fleurs violettes très visibles avec des étamines rouges à l'intérieur. Enfin, c'est des pistils.
Sont de très bonnes explications et j'espère qu'elles vous serviront chez vous à la maison pour retrouver ces plantes et ces herbes et épices. On se retrouve après une petite pause musicale. Oh, Alors, vous venez d'écouter Thundercat de Them Change. Vous avez choisi maintenant de nous présenter les différents modes de production qu'on peut avoir de vos herbes et épices. Alors, déjà, comment vous les produisez chez vous à la maison ?
Alors, chez moi à la maison, je ne les produis pas vraiment parce que bon, les pieds sont là et comme c'est... Tout ce qui va être romarin, thym, sarriette et origan, c'est des plantes qui résistent énormément à la sécheresse, qui poussent sur des terrains très rocailleux, très calcaires, avec peu de terre, qui poussent sur des sols très pauvres, donc c'est-à-dire pas vraiment pas riches en matière organique, en minéraux, etc. Donc ils vont demander vraiment pas beaucoup d'entretien. Ils vont survivre l'été sans arrosage, même dans le pourtour méditerranéen où il fait très sec. Donc une fois qu'on a un pied, il arrive à se débrouiller tout seul. Mais bon, si vous voulez en cultiver chez vous, il leur faudra des sols légers, donc pas argileux. Si vous avez des sols très lourds, très argileux, qui collent aux pieds quand c'est mouillé, évitez de les planter directement en sol et plantez-les plutôt dans des pots ou faites un apport de sable et de matière organique pour aérer le sol, en fait, et qu'il soit moins lourd. Il leur faudra des sols bien drainés, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'eau stagne parce que, en fait, ces plantes qui sont adaptées à la sécheresse, trop d'humidité va les tuer, tout simplement. Elles ont besoin de peu d'eau et c'est un excès d'eau qui pourrait leur nuire. Le romarin et la sarriette, comme je le disais, apprécient les sols qui sont très pauvres et très calcaires, donc les massifs méditerranéens, etc. Et enfin, donnez-leur du soleil et en sol sec. C'est des plantes qui aiment être en plein soleil, avoir des sols secs, etc. Si vous voulez qu'elle se développe bien, dans l'idéal, vous pouvez désherber autour des pieds pour éviter que des adventices, autrement dit des mauvaises herbes, ne viennent les embêter et leur prendre de l'espace et de la place. Surtout si vous vivez dans des climats chauds autour de la Méditerranée. Si vous êtes dans des zones un peu plus froides, en haute montagne, etc., on vous conseille de pailler les pieds en hiver pour les aider à supporter le froid et le gel. Mais il ne devrait pas avoir de problème à pousser autour de chez vous.
Pour ce qui est du basilic, alors ce que je vous conseille, c'est de les planter dans un sol, au contraire, relativement léger ou sableux. Il est assez exigeant à ce niveau-là. Il n'est pas très fan des sols argileux. Vous pouvez le planter en pleine terre ou dans des pots. Il apprécie très bien le pot puisqu'il ne fait pas des racines très longues. Pour ce qui est de le planter, alors rien de plus simple, on peut prendre un pied de basilic qu'on a déjà et récupérer un nœud. Donc c'est une intercession entre une branche et d'autres branches, c'est une séparation entre les deux. Vous pouvez donc prendre ce nœud et le placer dans un pot avec de l'eau et le garder pendant quelques jours jusqu'à ce qu'on observe une apparition de racines blanches. À partir de ce moment-là, vous pourrez directement le mettre en terre et l'arroser abondamment. Pensez bien à enlever les plus grosses feuilles pour limiter l'évapotranspiration, donc la perte d'eau par l'évaporation, puisque durant ces moments, le temps qu'il fasse son ancrage en sol, il n'aura pas beaucoup d'eau. Pour ce qui est du laurier sauce, lui est beaucoup moins exigeant. Vous pouvez placer dans des terres secs et argileuses ou non. Il s'adapte à peu près à tous les types de sols. Et pour ce qui est de la replante, c'est un peu du même principe que le basilic. Il vous suffit de prendre une branche et de la mettre directement dans le sol, de préférence à sableux si vous le replantez, et l'arroser idéalement abondamment et lui enlever pareil les feuilles les plus grandes pour éviter la transpiration et laisser faire. Il faut penser à le planter plutôt en fin d'été, puisqu'il risque d'avoir trop chaud durant l'été et mourir de sécheresse. Dans le cas du basilic, vous pouvez très bien le laisser dans le pot avec l'eau pendant tout l'été et le planter après la sécheresse, ce qui ne pose aucun problème.
Concernant les crocus safranières, si vous voulez en planter chez vous, c'est quelque chose de très simple à faire pousser. Il vous suffit de prendre un sol plutôt organique que vous allez garder humide et planter vos bulbes à l'intérieur de ces pots ou en pleine terre directement. Et le but sera de faire en sorte qu'ils aient minimum 3 heures de soleil direct par jour. Donc ça nécessite souvent d'avoir un potager ou d'avoir un balcon très bien exposé, le plus souvent avec des jardinières. Et gérer la difficulté du safran à faire pousser, c'est le moment de la récolte. Les fleurs vont s'ouvrir très tôt le matin et il faudra être de veille pour pouvoir récupérer les stigmates qui sortiront des fleurs et après commencer à les faire sécher. Concernant le thym, c'est quelque chose d'un peu plus simple parce que c'est une plante qui vit dans les garrigues, qui du coup a besoin de très peu d'eau et qui s'accommode à des sols pauvres et très calcaires. Donc ce que je conseillerais pour planter un safran, ça serait... un thym, désolé. Ça serait de le mettre dans un pot avec de la terre à cactus, qui est très caillouteuse et qui laisse l'eau passer sans trop la retenir. Ou de prendre des sols, si vous habitez dans des plateaux plutôt caillouteux, directement à côté de chez vous, et de le mettre en plein soleil si possible. Et peut-être pendant que la plante est encore très jeune ou qu'elle vient de germer, éviter de la mettre en plein soleil pendant l'été pour qu'elle brûle, simplement.
Vous avez dit pour le safran d'utiliser une terre organique, mais quand vous voulez dire organique, c'est-à-dire ?
Alors quand on fait du jardinage, il y a beaucoup de sols différents parce que les plantes sont toutes différentes et elles ont des besoins qui diffèrent l'une entre elles. Et certaines plantes, comme on a vu avec le thym, ont besoin de sols avec des cailloux, beaucoup de sable. Une terre organique, sur le coup, c'est quelque chose qui contient beaucoup de déchets végétaux, des feuilles fanées, des restes de branches, des racines. C'est souvent quelque chose qui est humide, qui retient beaucoup l'eau. Par exemple, si on veut un exemple de sol très organique que les gens ont souvent chez eux, c'est le compost que les gens font dans le jardin, qui après devient du limon et qui du coup qui est un constituant des sols organiques qu'on retrouve chez nous. Et donc du coup, c'est toutes ces terres qui sont faites avec la décomposition des êtres vivants et des végétaux.
On ne peut pas utiliser le terreau, du coup, ou faut le mélanger avec ?
Alors, sur le coup, le terreau, c'est quelque chose qui est plutôt limoneux, donc ça correspond plutôt bien à de l'organique. Mais si je pourrais conseiller pour le safran, c'est... parce que les safrans ont des besoins, ça reste quand même des plantes de bassin méditerranéen, c'est de mélanger avec le terreau, mettre un peu de limon, du coup, du compost, et des fois un peu de sable, parce que vu que c'est des bulbes, il ne faut pas qu'ils pourrissent s'il y a trop d'eau, par exemple.
C'est très intéressant. Vous, Ambline, vous nous avez parlé du basilic, et moi j'ai entendu que pour le collecter, on ne devait pas enlever seulement les feuilles, il fallait couper la base de la tige pour éviter justement les problèmes de perte d'énergie du pied en lui-même.
Effectivement, si on coupe juste la feuille, il y a continuité de la sève qui remonte dans les tiges et donc la plante produit de la sève qui ne servira à rien, elle sera perdue. Donc mieux vaut lui couper directement une partie, une branche entière pour éviter cette continuité de sève qui donc ne sera plus perdue. Dans ce qui est le thym, je voulais rajouter avec Michael que le thym nécessitant peu de nutriments, vous pouvez très bien le placer dans un pot d'eau et le laisser pendant plusieurs mois. Moi, j'en ai un qui, depuis septembre, est à ma fenêtre. Ça lui pose aucun problème. Il faut juste y penser à lui remettre de l'eau de temps en temps. Et il pousse comme ça.
Et vous nous avez parlé des boutures, mais est-ce que c'est possible de faire des boutures avec les autres herbes que vous nous avez présentées?
Alors, évidemment, le principe du bouture, c'est de récupérer le plus souvent une branche d'un pied qu'on possède déjà. Et grâce à la spécificité des cellules végétales qui peuvent se déspécialiser puis se respécialiser, c'est-à-dire que des cellules de plantes qui sont spécialisées pour être par exemple des cellules de tige vont redevenir des cellules entre guillemets souches, celles qui peuvent tout faire, et vont se respécialiser en par exemple des cellules de racines. Donc on va pouvoir, à partir d'une seule branche, refaire un végétal complet. Donc le plus souvent, on conseille alors soit de le mettre dans l'eau pour certains, comme par exemple le basilic ou le thym, ça marche aussi apparemment, ou directement en terre. Je sais que ma grand-mère a toutes ses boutures, elle les met directement en terre et elles reprennent chacune. Il faut, comme disait Ambline précédemment, récupérer les nœuds, souvent enlever les premières fleurs et aussi éviter de prendre des branches qui ont déjà fleuri parce que la présence de fleurs va en fait affaiblir la tige. Parce que quand on coupe la tige, en fait, il n'y a que quelques feuilles et un peu de sève à l'intérieur. Autrement dit, ses ressources pour se nourrir et se redévelopper sont très limitées. Donc si en plus il y a des fleurs sur cette tige, fleurs qui sont les organes de reproduction, demandent énormément d'énergie, votre bouture ne risque pas de marcher, évidemment. Donc même sur le romarin et sur l'origan et la sarriette, c'est tout à fait possible, oui.
Et pour le thym, du coup ?
Concernant le thym, comme l'a évoqué ma collègue tout à l'heure, on peut effectivement le placer en eau. Alors c'est assez délicat de faire bouturer du thym parce que c'est une plante qui est habituée au milieu très sec, donc du coup c'est pas quelque chose qui va avoir tendance à produire des racines aériennes ou ce genre de choses. Donc moi ce que je conseille c'est que des fois, pour certaines plantes un peu compliquées, on peut utiliser des poudres d'hormones de bouturage qu'on peut acheter, qui servent juste à déclencher un enracinement de la plante. Par exemple concernant le safran, vu que c'est une hybride stérile qui produit pas de graines, c'est forcément par reproduction asexuée. Donc sur le coup, au bout d'un an ou deux, les bulbes produisent des petites bulbies que vous pouvez récolter et planter ailleurs pour avoir d'autres petits safrans qui apparaîtront et ainsi augmenter la taille de votre culture petit à petit. Surtout que c'est rentable parce que le safran, ça reste quand même l'épice la plus chère du monde. Donc voilà, 100 € le gramme, je pense que c'est bien 30 € un bulbe et puis après on en a un peu à l'infini.
Ouais, donc c'est mieux de pouvoir réussir à planter
Oui.
cultiver ça.
Si vous avez un potager, rentabilisez-le.
Bon, ce sont de très bonnes explications et nous vous laissons sur une petite musique qui est La vie n'attend pas de Maeva. Et on se retrouve juste après.
Encore une journée comme les autres. Faudrait que je bouge mais rien ne me tente. Tant pis, tout ce que je dois faire attendra, je laisse passer. Je fais des faits, les pas faits, c'est parfait. Tant pis s'il y en a que ça dérange. Moi j'ai aucune envie que ça change. Aujourd'hui j'ai la flemme, je laisse couler. Et demain c'est la même, je veux rêver. Même si on dit que la vie n'attend pas, je me dis que c'est bon, ça nous regarde pas. Me demande pas, j'ai pas le programme de ma journée. Là mon tel se met à sonner. Je réponds pas, je suis même pas habillée. Ça me saoule, ce matin m'inspire pas.
aujourd'hui j'ai de la flemme, je laisse couler. Et demain c'est la même, je veux rêver. Même si on dit que la vie ne retombe pas, je me dis que c'est bon, ça nous regarde pas. On changera d'avis d'hiver en été, et même toute la journée, c'est tout. C'est nous, on grandira, mais là on veut profiter. C'est tout, c'est nous, on grandira, mais ne soyons pas pressés.
Nous nous retrouvons après cette petite pause musicale. Donc Maëlle, vous ne nous avez pas encore parlé de la cannelle, puisque c'est une épice. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire du coup de la production de cette épice ?
Alors déjà, il faut savoir que la cannelle que nous connaissons, donc celle que nous utilisons soit sous forme de bâtonnet de cannelle, soit sous forme de poudre, est produite par un cannelier qu'on appelle le cannelier de Ceylan ou le Cinnamon Verum. C'est une plante d'origine originaire du Sri Lanka, mais qui peut pousser en France à condition d'avoir des graines ou des plants, ce qui est assez compliqué. Il faut les faire venir de la Réunion ou d'ailleurs, enfin de régions où ils sont cultivés actuellement, à moins que vous ne soyez parti en voyage et vous n'ayez eu la chance de récupérer des graines de cannelier. Grâce à sa rusticité, donc sa capacité à résister au froid, elle peut supporter des températures qui descendent jusqu'à moins 5 degrés. Donc sur le pourtour méditerranéen, c'est assez simple de la cultiver, même en extérieur. Et puis si vous êtes un peu plus dans le nord ou un peu plus en altitude, vous pouvez très bien la planter en pot et la laisser à l'extérieur en été quand les températures sont agréables et la rentrer en hiver quand il fait trop froid, évidemment. Bien qu'elle supporte des climats assez froids, elle demande un sol très spécifique. Donc il faut que votre sol ait un pH entre 6,5 et 7,5, donc ce qui est un petit intervalle. Il devra être sablonneux, donc sableux, donc n'hésitez pas à rajouter un peu de sable, etc. Pour qu'il coule dans les doigts, etc. Et bien drainé, donc c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait d'eau qui stagne. Par contre, il faudra l'arroser régulièrement. N'hésitez pas à rajouter du compost organique, donc ce dont parlait Michael tout à l'heure, donc que vous l'ayez chez vous ou que vous alliez à un point de collecte de compost pour en récupérer, c'est tout à fait possible aussi. Cette matière organique va enrichir le sol en apportant en fait de la matière organique qui sera dégradée par la suite et qui servira de nutriment en fait, ce sera l'alimentation de votre cannelier. Il faudra que votre cannelier soit bien exposé au soleil ou légèrement ombragé. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous le mettez à un endroit et puis vous voyez comment il se développe. En fait, il faut apprécier, regarder comment votre cannelier va se développer pour savoir s'il est au meilleur endroit ou s'il lui manque un petit peu d'eau, un petit peu de soleil, etc. Donc ça, ce sera une observation à faire sur sa poussée. Et ce qu'il faudra bien penser à faire, c'est arroser, surtout pendant les premières années, donc de façon régulière, pour que la terre soit toujours humide. Pas inondée, pas sec, toujours humide, donc un milieu entre les deux. Et donc ainsi, votre cannelier pourra pousser. Ensuite, pour pouvoir récolter et obtenir votre propre cannelle, ce qui est un peu l'objectif de la production de cannelle en soi, il faut déjà savoir qu'elle pourra se faire qu'à partir de la troisième année, parce qu'il faut que votre cannelier, qui est un arbre qui peut pousser jusqu'à 1,50 m, 2 m parfois, l'écorce ne va pouvoir être récoltée qu'à partir de la troisième année, hein, puisqu'il faut qu'il soit assez grand pour qu'on puisse récolter des branches sans tuer le pied. Ce serait dommage et inutile et absolument pas rentable. Et la récolte du cannelier est un savoir-faire assez ancestral et très particulier. Donc on a plusieurs étapes. Tout d'abord, il va y avoir la sélection des branches. Donc c'est-à-dire qu'on va sélectionner les branches qui ont un diamètre inférieur à entre 2 et 5 cm à peu près. Donc on va les couper tout simplement. Vous prenez pas les principales, pas les toutes nouvelles, vraiment celles entre les deux, etc. Si la branche que vous avez coupée, il y a une partie, la partie la plus en haut, qui est inférieure à 2 cm, bah, n'hésitez pas à la couper parce que vous n'allez pas pouvoir vraiment l'utiliser. Ensuite, il va falloir séparer l'écorce du bois, donc la partie intérieure de la branche. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. C'est une utilisation avec des limes spécifiques, etc. Il faudra d'abord enlever l'écorce extérieure, puis ensuite séparer le bois de l'écorce intérieure. Et c'est ensuite cette écorce intérieure qui va être séchée pour ensuite donner les bâtons de cannelle que l'on connaît. Donc il y a différents types de séchage. Le séchage naturel, donc au soleil, comme on pourrait faire sécher du linge étendu dehors, évidemment. Et c'est ce séchage qui va donner à vos écorces de cannelle la forme repliée qu'on connaît des bâtons de cannelle. Sinon, vous pouvez aussi dessécher au four ou au micro-ondes. Mais la privilégiée reste quand même celle à l'air libre, même si elle est plus longue. Et puis, pour obtenir de la poudre de cannelle, une fois que vous avez au bâton, il vous suffira de la moudre. Et après, de l'ajouter au plat que vous voulez.
Tout à l'heure, on a parlé justement du bouturage des plantes. Est-ce qu'on peut le faire avec un arbre un cannelier ?
Alors, je ne sais pas spécialement si on peut réaliser des boutures de cannelier. Ça doit être faisable comme pour un très grand nombre de plantes. Après, certaines méthodes de bouturage demandent plus ou moins de compétences. Certaines plantes sont plus ou moins faciles à bouturer parce qu'elles ne sont pas très exigeantes. Le cannelier, je pense, va être une plante assez compliquée à faire bouturer. Il sera mieux soit d'acheter un pied déjà existant, qui a déjà été planté, soit de semer ses propres graines. Donc évidemment, de leur faire passer une période de froid et après de les faire germer dans l'eau et puis dans la terre. Même si évidemment, ça prendra après encore plus de temps pour avoir une récolte, puisque quand vous achetez un pied déjà grand, il a déjà un certain âge par rapport à une graine qui commence tout juste sa vie.
Comme vous parlez du bouturage, chez moi, j'ai vu plusieurs fois ma famille réaliser une technique qui permet de réaliser un autre pied, mais elle consiste à récupérer à la base d'une plante, on le fait généralement sur les rosiers, nous, une tige et de la mettre de l'enfouir sous la terre. Et ça fait des racines, du coup, mais je ne sais pas trop comment ça s'appelle, ni si elle est plus simple pour vos herbes ou non.
Alors, cette technique, elle est assez utilisée partout. Elle a un nom, c'est ce qu'on appelle le marcottage. Ça consiste, donc, comme vous l'avez dit, à prendre une branche de la plante qu'on veut bouturer, sans pour autant la séparer de sa plante mère. Donc ça fait que les deux, ça fait que le prochain plant et l'ancien sont toujours liés. On met cette branche sous le sol, enfouie si possible, ou alors dans un mouchoir humide par exemple. Des fois ça peut s'aider un peu, notamment en faisant une légère scarification à travers l'écorce, si c'est un arbre par exemple. Et normalement des racines sont censées partir des nœuds ou des lieux proches de la scarification si ça a été utilisé. Et à partir de là, des nouvelles branches peuvent se développer sur cette partie de l'arbre qui a été mise dans le sol. Et après, on peut séparer les deux plants en coupant le lien qui les unit. C'est la reproduction d'un phénomène assez naturel, parce que le marcottage, ça se fait dans la nature. Il y a beaucoup d'arbres, notamment je pense aux bouleaux qui se marcottent beaucoup, notamment par des branches à la base de leurs racines, ou aussi certaines plantes qui utilisent des stolons, qui sont quelque chose qui peut être très proche du marcottage si on devait marquer la ressemblance. C'est une technique qui, moi personnellement, j'ai jamais utilisée, mais pour les agriculteurs notamment, qui est très intéressante parce que les deux plants sont toujours liés, ce qui fait que par rapport à ce qu'on a dit avec le basilic précédemment, où il y a une réserve de sève qui va être utilisée, ce qui fait que ça réussit pas toujours, là la plante mère peut toujours apporter des nutriments nécessaires pour qu'une nouvelle plante se développe et des nouvelles racines avant qu'on les sépare. Et ça fait qu'il y a plus de chances de réussite et aussi que la future bouture prend plus vite, concrètement.
Et donc c'est une technique qui serait presque mieux à utiliser plutôt que le bouturage.
Ça dépend complètement de la plante. Il y a des plantes qui sont plus aptes à faire du marcottage que d'autres. Mais c'est sûr qu'il y a certaines plantes où c'est mieux d'envisager de les marcoter plutôt que de les couper. Ensuite, ça dépend aussi des circonstances. Si vous faites une culture en intérieur et que c'est en pot, ce sera un peu plus compliqué de mettre la racine dans la terre, à moins que vous preniez une petite boîte et que vous l'accrochez dans la branche où vous voulez qu'il y ait des racines qui partent. Mais sinon, je pense que ça peut être souvent adapté à un peu tout ce qu'on fait au niveau culture, notamment en extérieur, si vous plantez de la vigne ou alors des arbres fruitiers comme la cerise, les amandiers, les abricots, le marcotage, ça marche très bien.
C'est que pour réaliser le marcotage, il faut avoir des branches assez longues justement pour les enterrer et qu'elles continuent de ressortir. Donc c'est vrai que ça va être surtout utilisé sur les grimpantes, donc comme les vignes où en fait les tiges sont assez souples et on peut vraiment les guider et leur demander de passer par le sol. Ça peut être le cas pour des jeunes arbres fruitiers aussi ou pour tout autre grimpant sous forme de liane que vous avez chez vous. Pour justement les arbres qu'on présentait nous, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'on a des branches qui sont souvent beaucoup plus courtes, très solides. Parce qu'on a des petits arbustes étant donné qu'ils survivent à la sécheresse, etc. Les branches sont souvent courtes et très robustes. Et ce n'est pas vraiment la méthode la plus indiquée pour bouturer. On va soit préférer le bouturage, comme on l'a expliqué au début, en cassant, soit faire de la germination en utilisant les graines.
Il faut noter aussi que certaines plantes ne sont pas capables de faire des racines à partir de la tige extérieure et qui ne peuvent la faire que à partir de la tige intérieure. Et les stolons sont une méthode qui est assez proche, mais qui est quand même différente dans le sens où il n'y aura pas de racines le long du stolon. Il n'y aura qu'au niveau d'un nœud, où à partir de là, il y aura des nouvelles racines et de nouvelles plantes qui pourra donner à notre stolon et ainsi de suite.
Eh ben, merci beaucoup pour ces explications. Vous, Ombline, vous nous avez parlé du laurier sauce, mais... Beaucoup d'autres connaissent aussi le laurier rose. Cette plante est toxique, mais pourtant, d'après leur nom, elles font partie de la même famille. Comment ça se fait qu'elles soient aussi différentes l'une de l'autre ?
Effectivement, je vous déconseille de les mettre cela en salade. Donc le laurier rose ou le laurier blanc qu'on connaît tous, qui fait des magnifiques fleurs, est de la même famille que le laurier sauce, mais est différent au niveau de la composition et des toxines qu'il présente. Pour les reconnaître, il faut savoir que le laurier rose fait des feuilles très longues et que lorsqu'on passe la main dessus, on va avoir une sorte de poudre blanche. Il fait aussi notamment des très belles fleurs qui seront roses, violettes, blanches et qui sont très voyantes. Par rapport au laurier sauce qui, lui, a des feuilles beaucoup plus courtes, qui ne laissent pas de poudre blanche et qui fait de temps en temps, pas forcément sur tous, des petites fleurs jaunes très peu voyantes.
Ben, merci pour cette explication. On se retrouve après une petite pause musicale avec Dottie et Daniel is a river.
I thought it was all over.
What's up, Dottie?
Hey, girl.
You know, it's been a little minute since you and I have had a chat.
Has it really?
Probably since, like, your last EP, All the Places You'll Go.
Oh, wow. It's been a minute, yeah.
I've been getting some calls. Oh. People are a little bit worried about you.
Not worried.
And I know that I was kind of that outlet for you, so.
You were.
Why don't you just... Tell me what's been going on.
Okay.
Remember old dude from 2019? Nice clean nigga did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from his wifey. I was so confused. What should Dochi do? She didn't know about me and I didn't know about Sue. I opened up the messages and had to hit the Zoom. Turns out the girl was really a dude. Nigga think he slick back till I slip back. Got my lick back, turn a nigga to a knickknack. I moved on, dropped a couple of songs, and then I went and got signed. Now it's 2021.
Okay, I just feel like this is the perfect opportunity for us to just take a second and kind of unpack what's happened to you. You know, this guy cheated on you and...
Nah, fuck it. Platinum record this, Bible record that. I'm making so much money, I'm all over the net. I'm moving so fast, no time to process. And no, I'm not in the gang, but I'm always on set. This watch drip drop, label want the TikToks. Now I'm making TikTok music, what the fuck? I need a cleanse, need a detox. But we ain't got time to stop, the charts need us. Fast forward me, 2023. I'm stacking lots of cheese and making money. My grass is really green and honestly, I can't even fucking cap no more. This is a really dark time for me. I'm going through a lot.
By a lot, you mean drugs?
I wouldn't.
Drugs?
No, it's a...
No?
It's a natural plant.
No, I'm not judging.
I'm not an addict.
I'm just saying.
I don't think...
You wanna talk about it?
I mean, fuck, I like pills, I like drugs, I like getting money, I like strippers, I like to fuck, I like day drinking and day parties in Hollywood, I like doing Hollywood shit, snorted Bollywood. What can I say? The shit works, it feels good, and my self-worth's at an all-time low. And just when it couldn't get worse, my ex crashed my plane.
place and destroyed all I owned. Whoopsie, made a oopsie. $100,000 oops made me loopy. I ain't a killer, but don't push me. Don't wanna have to turn a nigga guts into soup bean.
Whoa. Okay, Doshi. We don't want to revert back into our old ways. So we're going to try a breathing exercise, okay?
All right,
when I breathe, you breathe, all right? Let's go.
Alors, nous voilà de retour. Donc, maintenant, vous allez nous présenter le différents types d'utilisation qu'on peut avoir dans notre alimentation de tous les jours pour éviter de consommer en continu des pâtes.
On peut commencer avec une entrée qui est assez originale, je puis me dire. C'est un toast de pain que vous rajoutez alors soit du pesto, soit de l'avocat en fonction de la saison. Vous prenez du chèvre acheté sur le marché de préférence et vous rajoutez un peu de basilic séché. En effet, vous pouvez prendre les feuilles de basilic, vous coupez tout votre arbre ou une partie, enfin votre plante, désolé, et vous les laissez sécher soit au soleil, soit au déshydrateur, en fonction de ce que vous préférez. Et vous pouvez les réduire après en poudre et les stocker dans des bocaux en verre. Ça permet d'en avoir toute l'année et donc de l'utiliser en poudre. Vous rajoutez par-dessus votre chèvre et vous pouvez manger comme ça.
Alors, pour le plat, je vous propose par la suite un filet mignon rôti au four. Vous préparez votre filet mignon, vous l'enrobez un peu de gros sel et vous le saupoudrez évidemment d'une belle quantité d'herbes de Provence. Vous mettez tout ça à cuire au four à 180 degrés pendant bien 20 minutes. Et puis, vous verrez, le sel et les herbes de Provence donnent un goût au filet mignon qui est tout simplement exquis.
Alors sur le coup, pour le safran, les gens ont tendance à l'utiliser comme épice pour la viande. Moi, j'ai déjà vu des recettes super intéressantes, notamment celle que j'aimerais vous partager ce soir, qui serait un sirop de safran à faire à la maison. Pour ça, alors ça demandera un peu de temps, mais la recette n'est pas très compliquée. C'est d'abord, prenez une bouteille de votre choix, pas très grande parce qu'on va utiliser des pistils de safran qui sont donc des pièces plutôt petites. Donc il faut que ça aromatise le plus possible votre futur sirop. Vous remplisserez ce récipient avec de l'eau, puis vous mettrez du sucre jusqu'à ce que ça soit assez saturé, et vous rajouterez le safran que vous avez récolté, je dirais à peu près 6-8 brins, mais que vous aurez produit ou alors que vous aurez acheté si vous sentez de mettre la main au portefeuille. Et après, vous mélangerez le tout et vous laisserez reposer, pas dans un frigo, il faut que ça soit à température ambiante, pendant une durée, je dirais, approximativement de une semaine ou deux. Surveillez quand même d'être dans un endroit pas non plus stérile, mais qui n'ait pas l'apparition de moisissures, parce que sinon, ça serait peut-être inquiétant. Peut-être passer des fois, ouvrir la bouteille et un peu nettoyer au cas où. Après que vous aurez la mixture sucrée avec aromatisé au safran, vous pourrez, quand vous voudrez le consommer, vous pourrez le diluer dans de l'eau, ou dans du Perrier si vous êtes un peu inventif, ou vous pourrez tremper des gâteaux sucrés dedans, ou même l'aromatiser avec le mettre dans du thé, on mélange avec du thé ou ce genre de choses. Ça vous permet de faire des recettes. Cette recette, je la trouve assez intéressante parce qu'elle est assez insolite, et je pense qu'elle fait vraiment ressortir le goût de l'épice pure, sans autre chose à côté qui le camoufle, entre guillemets.
Donc vous nous proposez de faire du sirop au safran, justement.
C'est ça.
Et bien, ça doit être agréable à goûter.
Pour accompagner vos viandes, vous pouvez faire des haricots ou avec lesquels vous les laissez cuire dans l'eau avec une ou deux feuilles de laurier sauce. Et vous rajoutez de la sauce tomate. Et ça vous fait un bon accompagnement avec votre filet mignon.
Et bien du laurier sauce et pas du laurier rose.
Exactement. Et puis pour finir, en dessert évidemment, on peut soit, selon la saison, enfin si on est en hiver si vous le souhaitez, finir par une bonne compote de pommes et de poires avec évidemment de la cannelle. Ou si vous n'êtes pas trop compote, etc., vous pouvez aussi faire plutôt une tarte aux pommes pour ceux qui préfèrent. Donc soit vous mettez un peu de crème pâtissière ou un peu de compote tout simplement en dessous, voilà. Vous mettez vos pommes, vous mettez au four, vous coupez vos pommes. Alors après, c'est au choix. Moi, je sais qu'à la maison, on coupe les pommes extrêmement fines et on les étale. Donc en fait, on fait une tarte de forme rectangulaire, mais comme ça, c'est beaucoup plus simple à couper après. on met à cuire et puis à la fin de la cuisson, comme ça, on saupoudre un peu de cannelle pour donner un rehausser le goût de la pomme et sublimer tout ça.
Et la cannelle, c'est possible de l'utiliser dans d'autres plats qu'avec de la pomme ou des pois ?
Mais bien sûr. La cannelle, bon, c'est une épice qui va être utilisée essentiellement pour le sucré. Donc, bah, pour tout ce qui est dessert, vous allez pouvoir énormément la trouver. Mais si vous êtes amateur de boissons chaudes, vous pouvez, en hiver, quand Noël approche, vous préparer des bons vins chauds accompagnés de cannelle, évidemment. Et puis, si vous n'êtes pas trop alcool et que vous préférez le chocolat chaud, rien ne vous empêche de vous préparer un bon chocolat chaud et de vous saupoudrer. Alors, soit vous mettez directement un peu de cannelle dessus, soit, si vous êtes gourmand, vous pouvez mettre un peu de crème fouettée et saupoudrer votre crème fouettée de cannelle. Comme ça, vous avez un bon chocolat chaud de Noël qui vous réchauffera de A à Z.
Faut pas d'accord. Oublier les chamallows avec.
Et les chamallows, pour ceux qui veulent aussi, c'est possible.
Ben, merci pour ces petites utilisations des différentes épices et herbes. Donc, on vous laisse pour la petite pause musicale et on se retrouve pour une petite surprise dédicace des agros juste après. La petite surprise dédicace des agros, c'est la cuisine des agros. Donc, qu'est-ce qu'on se cuisine entre nous pendant, pas pendant les cours, mais à déguster pendant certains cours?
Alors, grande spécialité des agros, surtout en première année, c'est le concours de brownie, évidemment. Pour la référence, il faut savoir que quand on a commencé les cours de sciences du sol, Madame Charlotte, qui est notre prof, une de nos principales profs en agronomie, nous a comparé en fait la texture du sol, donc c'est-à-dire les ingrédients du sol et sa structure, donc comment est-ce qu'il semblait lourd, léger, aéré, etc., à un brownie. Donc savoir si c'était un brownie très, comme dirait Madame Charlando, pouf pouf, donc c'est-à-dire très lourd et une part vous remplit l'estomac mais vous n'avez plus envie de manger, vous avez mal au ventre, ou au contraire si c'était plus moelleux, un peu plus aéré avec une structure normale. Et donc en son honneur, nous avons préparé un premier brownie pour toute la classe entière. Et le concours a été lancé ainsi. Les deux prochains sont prévus pour jeudi de la semaine prochaine, lors d'une de nos sorties. Et nous les attendons avec impatience. Évidemment, chaque recette change et on élira probablement à la fin de l'année le meilleur des brownies.
Et j'ai entendu aussi parler du concours de cookies avec votre professeur de chimie. Est-ce que vous pouvez m'en dire deux mots ?
C'est pas un concours, c'était plutôt un échange de bons procédés qui n'a pas parfaitement fonctionné, mais dont du coup il y a eu quand même l'échange des cookies pendant une manip de chimie. Bien sûr, nous les avons mangés en dehors de la salle de TP.
Parce que c'est interdit. Et c'est très amusant de faire ceci, puis je pense que ça crée une très bonne cohésion dans la classe, malgré qu'en fin d'année, il y aura un vainqueur sur le concours de brownies.
C'est pas grave, ça fait des bonnes rivalités, je trouve.
C'est ça, sans compter le goûter qu'on a organisé le jour où on avait 6 heures de cours avec la même prof. Et donc, d'un commun accord entre étudiants et Madame Charlando, nous avons organisé un goûter qui est bien tombé, puisqu'il nous a aussi permis de célébrer l'arrivée d'un nouvel étudiant dans notre promo qui nous a rejoint pour le second semestre et qui venait des... GBSE, donc sciences de l'environnement et écotechnologie.
Eh bien, dans cette classe, nous avons de bons mangeurs, je pense.
On s'est régalés.
Des gourmands surtout, et des gourmets.
Il nous faut du sucre pour pouvoir faire les études.
C'est ça, il faut de l'énergie.
C'est ça, elle était pas avec le glucose.
Eh bien, merci de nous avoir écoutés. C'est la fin de notre présence sur la radio. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à la prochaine.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
It's murder on the dance floor. But you better not kill the groom, DJ. Gonna burn this goddamn house right down.
4, 3, 2, 1.
Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. About your
not kill the